est présenté ce soir à 19h30 au Centre communautaire municipal, la première d'une série de bars de sciences. Le bar de sciences, c'est comme ça qu'on appelle la rencontre entre des scientifiques qui viennent étudier dans leur champ d'expertise à Lille, et la Société du patrimoine mondial Anticosti s'organise pour que ces scientifiques-là puissent rencontrer la population, présenter leurs recherches et répondre aux questions échangées avec les gens. Et ce soir à 19h30, donc, à la chasse au bourdon, c'est le premier bar de sciences. Ça se déroule au Centre communautaire municipal. J'ai avec à l'émission aujourd'hui, Amélie Morin, qui est doctorante en biologie végétale, étudiante à l'Université Laval et qui vient donc étudier les bourdons chez nous. Bonjour Amélie.
Bien, merci beaucoup, merci de l'accueil. À date, on a eu un très bel accueil de tout le monde, donc c'est un plaisir d'être ici.
Vous êtes bien entourée et les gens sont sympathiques, elles les aiment rencontrer visiteurs.
Oui, vraiment, dès notre arrivée à l'aéroport, tout de suite, on a eu un contact avec les citoyens, puis ça s'est déroulé ensuite tout le long. Quand on sort avec nos filets, souvent on vient nous poser des petites questions, ça nous fait toujours plaisir de répondre aux questions.
Ben, c'est un peu ce qui nous amène ensemble. D'abord, merci de participer à cet entretien. Ce soir, nous serons sur place, assister à cette conférence qui sera la vôtre, le Bar des sciences. Mais la première question que moi je me suis posée quand j'ai su que vous apparaissiez ici en recherche sur l'île, pourquoi les bourdons à Lille? Quel est le lien entre la présence de bourdons et la vôtre ici à Lille?
Oui, bien c'est une bonne question. C'est la question « Pourquoi les bourdons? » c'est celle que je me fais le plus souvent poser conférence. Puis je vais bien y répondre aussi dans le détail ce soir. Dans le fond, nous, pourquoi les bourdons? Il y a vraiment plusieurs raisons. Puis ensuite, je pourrais passer à pourquoi sur l'île plus directement. Pourquoi on chasse surtout les bourdons? En fait, c'est des espèces qui sont indigènes, donc qui étaient ici bien avant nous, contrairement par exemple à l'abeille à miel là, qui a été exotique, qui a été importée. Donc, ça fait que les bourdons sont super adaptés à nos conditions météo. Donc, c'est-à-dire quand il fait froid, ils peuvent polliniser près de 0 degré. Donc, quand on est un peu plus au nord, ça peut être très utile quand ça fleurit puis il fait froid. Versus, là, les abeilles, on parle à peu près 10 degrés là, qui peuvent sortir. Donc, les bourdons sont super adaptés. Quand ils ventent, quand il pleut, ils vont être capables de polliniser. Ils font ce qu'on appelle la pollinisation vibratile. Donc, le bourdon, c'est une forme de pollinisation qui est vraiment utile pour certains fruits et légumes qui est nécessaire. Donc, c'est des pollinisateurs importants, excellents, adaptés à nos conditions. Et malheureusement, en ce moment, il y a des espèces qui sont en péril, donc qui sont listées là, par le gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral. Donc, qui sont en train de s'éteindre. Donc, on a quand même un devoir aussi là, d'essayer de les protéger, de les étudier, puis d'essayer de les sauver pour pas qu'ils s'éteignent et qu'ils puissent continuer à faire leur travail super important, en fait, parce qu'à peu près le tiers de ce qu'on mange dans notre assiette a besoin là, des pollinisateurs. Et au Québec, ben, c'est les bourdons là, qui sont d'excellents pollinisateurs. Donc, ça, c'est un peu le pourquoi, les bourdons.
À la base.
Ensuite, l'île. En fait, sur l'île, j'imagine que peu de gens sont au courant, mais vous avez une espèce en péril, donc qui s'appelle Bombus terricola, en latin, ou en français, le bourdon terricole. Donc, c'est une espèce qui est listée là, au niveau provincial et fédéral en ce moment, qui est vulnérable. Donc, c'est important de l'étudier puis de voir... s'il est en train de décliner, s'il est stable en ce moment, comment on peut l'aider. Puis ça, ben c'est grâce à la science citoyenne là, que moi, je l'ai vu, en fait. Donc, les sites comme iNaturalist et Bumblebee Watch, là, c'est deux sites où les citoyens peuvent prendre des photos de bourdons et les mettre sur ce site-là en ligne. Et c'est comme ça qu'on a vu là, que l'espèce en péril était présente sur votre île.
OK, donc il y a quelqu'un à l'île qui a pris des photos de ce type de bourdon-là. À placer ces photos sur les sites dont vous parlez.
Exact.
Et là, vous avez découvert qu'ils sont ici.
Exactement. Fait qu'il y a aussi eu des projets de science là, par le passé. Donc, nous, on a aussi accès à des données scientifiques. Mais moi, la première découverte là, que j'ai vu l'espèce en péril, c'est par iNaturalist. Donc, un citoyen ou un touriste a pris une photo du bourdon et l'a mis en ligne, donc c'est vraiment utile pour nous.
Formidable.
Après ça, on a ses coordonnées, on a la date qui a été vue, on peut savoir est-ce que c'était une reine, est-ce que c'était une ouvrière, elle était sur quelle fleur. Donc, toutes ces données-là, moi, je les ai en ce moment dans mon téléphone, puis ça nous aide à chasser aujourd'hui, une fois qu'on est sur l'île, à essayer de la retrouver, cette fameuse espèce-là. On étudie aussi les autres espèces sur votre île, bien entendu, mais la présence de cette espèce-là qui est à risque de s'éteindre, c'est la première raison pourquoi on est venu sur l'île.
À votre connaissance, Amélie, est-ce que c'est le seul lieu au Québec où on en retrouve ou il y en a d'autres ailleurs, en Gaspésie, Basse-Côte-Nord?
Oui, il y a d'autres lieux où il est trouvé, ce bourdon-là. Donc, c'est pas seulement présent sur l'île, mais je dirais que c'est quand même de plus en plus difficile de le trouver. Donc, quand on a des données comme ça qui nous indiquent où il a été vu, là, c'est toujours très utile.
Et bien là, vous titillez mon cerveau là-dessus. Il a quoi de particulier, ce bourdon-là, par rapport à d'autres bourdons?
Ce bourdon-là, en fait, c'est un bourdon qui va apprécier quand même les milieux forestiers. Donc, va souvent nicher là, plus en milieu forestier, là où d'autres bourdons vont être beaucoup en milieu agricole ou urbain, par exemple. On a des espèces très adaptées à Montréal ou à Québec. Donc, évidemment, ce ne sera pas ce bourdon-là. Nous, on le reconnaît par sa couleur. Fait que je vais présenter des photos là, ce soir. Vous allez pouvoir voir un peu à quoi il ressemble. Il y a des couleurs très, très particulières. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que celui-là a décliné puis que d'autres vont bien? Ben, c'est ce qu'on étudie, c'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre pour l'aider, parce que c'est très difficile de savoir. Tous les bourdons sont un peu différents, les espèces sont différentes. Certaines espèces vont sortir très tôt de l'hibernation, d'autres très tard. Certaines vont avoir des longues langues puis aller dans des fleurs très profondes. D'autres vont avoir des langues plus courtes, aller dans des fleurs plus courtes. Donc, les bourdons ont quand même beaucoup de différences. Puis, c'est ce qui fait que certaines espèces vont un peu mieux, d'autres vont moins bien, puis qu'on les étudie.
J'ai fait une recherche sur vous et sur ce que vous cherchez, évidemment, avant de vous accueillir ici. J'ai découvert, c'est logique, mais en même temps, on n'y pense pas, qu'il y a des super aliments pour les bourdons. Mais il y a l'équivalent aussi, disons, au niveau de la valeur du fast-food. Il y a des plantes qui conviennent moins pour que le bourdon soit en santé. Alors, en général, qu'est-ce qui fait qu'un bourdon peut bien se nourrir? Comment le découvrez-vous, finalement?
Oui, ben, c'est une excellente question. Je dirais, tu sais, à la base, ce qu'il y avait, tu sais, avant l'arrivée des humains comme fleurs indigènes et des prairies et tout, je pense que ça répondait très bien à leurs besoins. Là, nous, parfois, on vient planter des fleurs ornementales dans nos jardins où on fait des cultures, des grandes superficies de monoculture. C'est là que peut-être certaines carences sont apparues chez les bourdons. Puis nous, comment on étudie ça? En fait, on récolte le pollen des fleurs. Donc, on prend une espèce de fleur, on vient récolter son pollen. Puis on peut analyser ça. C'est là où on l'envoie en France pour faire des analyses poussées. Puis on obtient comme le tableau de valeurs nutritives qu'il y a sur nos aliments, la quantité de protéines, lipides, vitamines, etc. qu'il y a dans cette fleur-là. Puis on se rend compte que, comme vous disiez, il y a vraiment des extrêmes. Donc il y a des fleurs super riches en protéines, donc qui vont être super bonnes là, quand on commence à se reproduire. Là, il y a des moments dans la vie du bourdon où il y a besoin de beaucoup de protéines.
Comme quelle plante en général? Je sais bien que ça peut être particulier, mais est-ce qu'il y a des super plantes connues? Là, on dit ça, c'est parfait pour des bourdons.
Oui, j'ai quelques débuts de recommandations d'analyse qui ont été faits au début de mon doctorat. On va en avoir beaucoup plus à la fin quand on va avoir analysé tout le pollen qu'on récolte. En ce moment, là, ce qui est très protéiné, les arbres et les arbustes qui fleurissent, donc tous les arbres fruitiers, les arbustes, là, il y en a plusieurs aussi là, qui fleurissent. Saule, érable, choses comme ça, c'est bien protéiné. Puis sinon, dans les fleurs, plus des petites fleurs, là, en ce moment, là, on regarde le trèfle, ces choses-là, ça semble intéressant en termes de quantité de protéines, je dirais.
Là, nos bourdons sont en compétition avec les chevreuils pour ce qui est du trèfle, parce que là, on voit que les chevreuils essaient de bouffer tout ce qu'il y a de trèfle à peu près aussi.
Exact.
C'est bon pour eux, puis ils aiment ça également. On a été conscientisés, je pense, au moins dans les dernières années, sur le sort des abeilles. Et bon, c'est moins intéressé aux bourdons, parce que les médias se sont emparés du sort des abeilles. Mm-hmm. On s'est fait dire que les abeilles étaient aussi victimes peut-être des pesticides.
Ouais.
Est-ce que c'est le cas des bourdons?
Oui, c'est le cas des bourdons. Moi, j'aime toujours, quand j'en ai la chance en entrevue, faire la grande distinction que les médias ont parfois de la difficulté à faire.
Allez-y.
Entre les abeilles à miel qui sont importées et qui sont une ressource économique importante pour les apiculteurs et apicultrices, donc qui sont importantes, mais qui ne font pas partie de la biodiversité, qui ne sont pas à risque d'extinction, qui ne sont pas en péril. C'est comme un élevage de poulets. Hein. Les poulets ne vont pas s'éteindre quand il y a une problématique dans l'élevage. Donc, c'est des problématiques d'élevage qu'il faut étudier. Moi, je suis complètement ailleurs. Je travaille sur la biodiversité, les abeilles indigènes, les bourdons, qui, eux, sont à risque de s'éteindre parce qu'il n'y a pas d'apiculteurs qui les nourrissent, qu'il n'y a personne qui les aide en hiver. Donc, moi, je travaille là-dessus, sur la biodiversité locale, puis sur, aider les bourdons. Fait que c'est la première distinction. Par la suite, les effets des pesticides, en effet, c'est beaucoup plus étudié chez les abeilles à miel. On a un petit peu moins de budget parfois dans la conservation. Dans les bourdons. Ouais, c'est ça, des bourdons. Mais oui, on a des chercheurs là, très bons. On a Sabrina Rondeau, par exemple, au Québec, en Ontario, qui a fait des recherches vraiment intéressantes sur les effets des pesticides. Et oui, les effets sont graves. Sont répertoriés. On se rend compte, par exemple, une des recherches de Sabrina s'est rendue compte que les bourdons vont nicher dans le sol et au lieu d'éviter les sols qui sont contaminés par des pesticides, vont être attirés par ces sols-là. Donc, les effets, non seulement se retrouvent sur les fleurs, dans l'eau qu'ils consomment, mais même dans la terre où ils vont faire leur nid puis ils vont hiberner. Donc, des effets insoupçonnés qu'on n'a pas du tout étudiés jusqu'à date. Donc, ouais, en général, les effets sur les espèces indigènes vont être sous-estimés un peu, moins étudiés et tout aussi importants que sur les abeilles.
Parce que l'industrie voit moins le lien entre ses revenus et puis l'existence de ces bêtes-là, finalement.
Exactement. C'est un peu plus difficile de l'apporter. C'est sûr que tous les producteurs qui travaillent là, avec des fleurs qui ont besoin de pollinisation, donc en bleuet, en pomme, et on essaie de leur montrer aussi à quel point cette richesse-là, cette biodiversité d'abeilles indigènes est importante. Parce que s'il y a un problème avec les abeilles à miel, ben c'est eux qui vont venir polliniser leurs fleurs. Là. Donc, de faire des bandes fleuries, c'est vraiment génial. T'sais, les abeilles à miel, on l'a vu, il peut y avoir des effondrements là, des colonies. C'est jamais une bonne idée de se fier sur une seule espèce qui peut diminuer rapidement. Donc, on travaille fort pour faire des bandes fleuries, pour montrer qu'il y a un rendement, là, que ça peut rapporter, ça peut faire des pollinisations meilleures des fruits, par exemple, dans certaines cultures, la tomate, par exemple. Donc, on travaille là-dessus. Puis après, on travaille aussi en grande culture où les champs n'ont pas nécessairement besoin d'être pollinisés. Donc, il n'y a pas vraiment de lien économique pour le moment où on peut dire, oui, quand il y a des bourdons sur place, ton maïs va être plus... Mais il y a beaucoup de producteurs qui le font quand même aussi pour d'autres raisons. Donc, pour des raisons, pour juste la valeur écologique, pour leurs enfants, pour la santé de l'environnement. Donc, on travaille dans toutes sortes d'environnements.
Bien, je disais justement que vous collaborez avec deux douzaines peut-être, ou en tout cas plusieurs agriculteurs au Québec. C'est ce genre d'informations que vous leur donnez finalement?
Oui, exactement. Le projet part beaucoup d'eux puis des questions qui m'ont posées. C'est beaucoup, qu'est-ce que je dois semer chez nous, Amélie, pour aider les bourdons, pour en avoir? Comment je peux l'aider, cette espèce en péril-là? Parce qu'il y a des producteurs qu'on leur a dit, vous avez l'espèce en péril chez vous, là, sur votre terrain. Vous avez le pouvoir là, de l'aider vraiment à aller mieux. Donc, c'est ce qu'ils nous ont demandé, comment les aider. Puis, est-ce que les bandes fleuries qu'ils font actuellement, à long terme, ça peut les aider, ces bourdons-là. Donc, c'est les questions qu'on essaie de répondre le plus directement possible, le plus simplement possible. Qu'est-ce qui est le mieux de semer? Puis, est-ce que à long terme, leur santé, ça ressemble à quoi? Fait que c'est ça l'objectif.
C'est vraiment intéressant, Amélie. Vous parlez de bandes fleuries. Nous sommes à Lille. Ici, il n'y a pas d'agriculture véritable. Il n'y a pas d'arbres fruitiers comme on les entend d'habitude, c'est-à-dire des pommiers, des pruniers, des choses comme ça. On n'a pas vraiment de lilas. On est limité pour ce genre de plantes-là. Oui. Quelqu'un écoute, là, ira ce soir vous voir ou écoute à la radio présentement et entend le mot « bande fleurie ». Qu'est-ce qui serait pour des gens ici, compte tenu de notre climat, qui est quand même un peu plus frais, qu'est-ce qui serait une bande fleurie intéressante pour aider les bourdons, par exemple?
Bien, c'est une question très difficile parce que moi, tu sais, je viens pas de Lille.
La connaissance est limitée de notre réalité.
Exactement. Ouais. J'ai très hâte ce soir d'échanger avec les citoyens puis d'aider à trouver des solutions. Là, ça ne viendra pas juste de moi, ça va venir de tous ensemble, des échanges qu'il va y avoir. Pour le moment, c'est ça fait 2-3 jours qu'on est sur l'île. Le jardin communautaire a une belle diversité de bourdons. Fait que, là, il est protégé par les clôtures. Donc, j'ai vu qu'il y avait des beaux rosiers, des choses comme ça. Donc, on est allé jeter un coup d'œil. Puis, vous avez l'espèce en péril, en fait, était présente dans votre jardin communautaire.
Bon.
Donc, ça, c'est un super beau acte là, qu'en communauté, on peut faire. Donc, des aires protégées comme ça où on... on clôture, là, puis on peut mettre des fleurs à l'intérieur, bien, c'est sûr que c'est super pour les bourdons.
Parce qu'il y a des légumes, il y a beaucoup de fleurs cette année au jardin, justement, aussi.
C'est super beau, j'ai été vraiment impressionnée. Fait que ça, c'est un beau... Sinon, en ce moment, on les trouve beaucoup sur le trèfle. Donc, il y a comme certains endroits où le trèfle semble avoir poussé. Je sais pas à quel point c'est facile pour un citoyen d'aller faire pousser sa pelouse en trèfle, mais il semble s'être échappé à certains endroits. On est allé à la ferme aussi, il semblait y avoir du trèfle. Mais c'est sûr que c'est difficile de vous répondre. Je pense qu'il n'y a pas une solution simple, miracle et facile, une fleur qui va survivre à tout. On l'a vu sur le chardon aussi, le très piquant, là, la petite fleur mauve très piquante qui est en fleur en ce moment. Donc ça, tu sais, si vous avez un coin de terrain où le chardon pousse, puis peut-être qu'on ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle pique beaucoup, mais de la laisser fleurir un petit bout de votre coin de terrain, ça peut être une idée aussi. C'est quelque chose que les cerfs ne mangent pas. Fait que, on peut essayer de trouver, c'est ça, des choses que les cerfs ne mangent pas ou les restreignent. Comme par exemple, on va aller visiter les exclos, voir s'il y a des fleurs aussi dans ces exclos.
Oui, ces temps-ci, il y en a pas mal, effectivement. Vous devriez être bien servi. Il y a même des exclos où il y a des fruits aussi, présentement. Okay. Alors, il y a une espèce de ronce qu'on appelle ici une mûre, mais c'est pas tout à fait une mûre, mais là, c'est la saison, donc probablement que vos amis bourdons doivent être heureux. Amélie, vous avez prononcé le mot « France » tout à l'heure. Pourquoi le fruit de vos recherches s'en va en France?
C'est une bonne question. En fait, ma co-directrice, elle a un laboratoire de recherche en France. Donc, pour le moment, c'était la façon la plus simple, efficace et moins coûteuse de mettre en place les analyses poussées du pollen. C'est pas encore fait au Québec. Donc, ce que j'aimerais beaucoup, c'est rapporter la technique puis monter un beau laboratoire ici aussi au Québec, qu'on soit capable de faire ces analyses-là. Parce que c'est super utile, non seulement pour savoir pour les bourdons, mais le pollen, il y a aussi de la consommation humaine, on en vend, donc savoir qu'est-ce qu'on consomme. Donc, on collabore aussi avec des apiculteurs qui sont vraiment géniaux pour ça, qui nous aident à récolter du pollen. Puis, eux sont super intéressés à savoir qu'est-ce qui se retrouve dans leur pollen, qu'ils vendent ensuite dans les tablettes. Donc, c'est ça. On aimerait bien pouvoir le faire ici au Québec, mais c'est une toute nouvelle technologie là, qui se dessine dans les dernières années. Donc, d'ici quelques années, là, ça devrait pouvoir se faire.
Donc, il pourrait y avoir du pollen collecté ici qui s'en va en France?
Oui, exact. Oui, il y en a déjà une petite partie qui est partie. Puis sinon, à la fin de l'été, on prévoit un envoi postal un peu complexe sur carboglace pour pas que ça dégèle. Les vitamines sont sensibles à la chaleur, donc c'est une grosse opération. Mais oui, il va s'envoyer en France en septembre ou octobre. Là.
Vraiment, vraiment intéressant. Je voyais une photo où vous aviez des bourdons dans votre main. Le réflexe d'un humain, c'est de craindre les piqûres, des bourdons, des guêpes, des abeilles. Puis vous les placez à main nue dans votre main.
Oui, bien, il y a un petit truc derrière ça. Puis même chose, je vais pouvoir le montrer aux citoyens. Le petit truc, c'est que les mâles, en fait, n'ont pas de dard. Donc, ils ne peuvent pas nous piquer. Donc, une fois qu'on sait identifier les mâles, c'est facile d'impressionner nos amis, d'en trouver un, de le mettre sur notre main et d'avoir aucun danger. Je vous dirais que les bourdons, là, les femelles, donc les reines et les ouvrières, c'est pas du tout agressif. Nous, dans le cadre de ma maîtrise, mon doctorat, j'en ai capturé plus de 5000 et j'ai aucune piqûre, jamais. Donc, c'est vraiment pas leur premier réflexe, ils sont pas agressifs du tout. Le seul moment où il y a de l'agressivité, là, même de la part généralement des abeilles et des guêpes, c'est quand on s'approche des nids. Fait que si on comprend que quand le nid est proche de la maison, ça devient difficile de cohabiter, puis on peut essayer de relocaliser les nids. Mais en général, si vous en avez dans votre jardin qui butine, ils vont s'éloigner de vous s'ils vous apprécient pas. Ils vont pas vous piquer. C'est vraiment pas leur réflexe. Ils protègent pas la fleur qu'ils sont en train de butiner. Mm-hmm. Là, ils vont s'éloigner. Puis, donc, non, les bourdons sont bien gentils avec nous.
Est-ce que vous les aimez, les bourdons?
Absolument, oui. Je les trouve super jolis. Si vous vous mettez à les observer, vous allez voir, là, on a une vingtaine d'espèces au Québec. Ils sont tous différents. Il y en a qui ont du orange, super flash. Il y en a qui sont plus noirs. Il y en a qui ont beaucoup de jaune. Il y en a qui ont du brun. Fait que quand on se met à les observer, on voit leurs différences. On voit aussi, ils sont un peu drôles, les bourdons. C'est pas les plus habiles. Ils sont parfois un peu mal habiles. Donc, des fois, ils s'accrochent à une fleur, puis la fleur va tomber parce qu'ils sont lourds. Donc, ils vont tomber sur le sol. Là. Ils semblent un peu étourdis. Ils vont repartir. On a des fois des bourdons qui nous rentrent dedans par accident. On dirait qu'ils nous ont pas vus. Donc, ils sont vraiment drôles à observer. Fait que si vous prenez le temps, là, ça vaut vraiment la peine.
Quand vous étiez tout petite,
oui.
Vous aviez 5 ans, 6 ans, 7 ans, aviez-vous un attrait, une attirance naturelle pour les bourdons? bourdons. On a compris que vous voulez les sauver, mais c'est d'où le déclic?
C'est quand même très récemment. J'étais quand même une petite fille qui avait très peur des araignées, des bibittes et qui criait à son papa très fort pour qu'il vienne tuer les bibittes dans sa chambre.
Ironiquement.
Donc, exactement. J'étais vraiment pas fan des bibittes. J'étais celle qui partait en courant quand il y avait une abeille qui s'approchait de moi en criant « Ah, elle veut m'attaquer! » alors que la pauvre abeille voulait seulement retourner chez elle. Donc, non, c'est venu vraiment récemment, en fait, en cherchant un projet de maîtrise après mon bac. Et je suis tombée sur la maîtrise sur les bandes fleuries, qui étudiait aussi par la bande les bourdons. Mais j'étais vraiment, j'ai accepté pour les bandes fleuries, pour les fleurs. Je suis vraiment une fan de fleurs. Et donc, ça a commencé comme ça, en me disant, je devrais être capable d'attraper des bourdons. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais apprécié ça, mais nouveau défi. Puis, non, je suis vraiment tombée en amour avec les bourdons. Puis, là, c'est ça, le but, c'est d'essayer d'aider à les sauver. Puis maintenant, je les apprécie beaucoup, le fait que... Puis j'apprécie maintenant aussi les araignées et les autres insectes. Donc, quand on commence à s'intéresser à un, à observer son comportement, qu'il mange, qu'il a sa longue langue pour aller chercher du nectar, tu sais, on commence à les apprécier puis à voir un peu plus aussi pour les autres insectes qui sont utiles puis qui font pas peur puis qui sont vraiment importants.
Comme on dit dans la vie, c'est difficile d'aimer ce qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. C'est plus facile de le craindre parce qu'on ne le connaît pas.
Exact.
Donc, dans ce cas-ci, en allant ce soir à la conférence, on risque de tomber, nous aussi, en amour avec les bourdons.
Bien, j'espère vous convaincre un petit peu, vous donner des fun facts, puis qu'il y a des gens qui sont moins certains de les apprécier. Il y a même des gens allergiques parfois, mais il y a des façons de les aimer quand même, fait que j'espère vous montrer ça.
Ce séjour parmi nous va durer combien de temps?
On reste 2 semaines sur l'île. Puis on espère attraper le plus d'espèces en péril possible avec notre méthode non létale, qu'on les relâche tout de suite après. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour vos bourdons.
Bon, parfait. On veut pas que vous fassiez du mal à nos bourdons.
Non, absolument pas. On fait super attention.
Amélie Morin, c'était très, très plaisant de vous rencontrer aujourd'hui. Merci de nous avoir donné ce temps-là. Puis on va être là ce soir, 19h30, au Centre communautaire municipal pour le premier bar de sciences. C'est sans alcool, mais on va apprécier la soirée, c'est certain.
Bien, merci beaucoup de l'invitation, puis à ce soir.
Cette entrevue a été réalisée grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.